Bonsoir. Joseph Kabila et François Hollande d'accord sur la nécessité de développer et de diversifier les échanges économiques et humains entre la RDC et la France. Parmi les secteurs concernés, on cite les transports, les infrastructures et la gestion durable des ressources naturelles. La décision d'exiger aux ressortissants de la RDC de se munir de leur passeport pour aller au Congo-Brazzaville, en plus du laisser-passer, surprend les autorités du Congo-Kinshasa, selon le ministre de l'Intérieur de la RDC. Tels sont les thèmes de ce soir dans le Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Félix Kabouzi, le directeur de publication du journal La Référence Plus. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Félix Kabouzi.
Bonsoir.
Marcelin Mandwakila, il est directeur de rédaction au journal Forum des As, un quotidien qui paraît aussi ici à Kinshasa. Bonsoir Marcelin Mandwakila.
Bonsoir Guy.
Et Dona Moussema, il est directeur général de la radio Iriba FM, émettant depuis Bukavu Sud Kivu, et secrétaire provincial de l'UNPC Sud Kivu. Bonsoir Dona Moussema.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à Félix et à Marcelin et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Diversifier les échanges économiques et humains entre la RDC et la France, c'était la décision prise à l'issue de la rencontre Kabila-Hollande à Paris. La RDC veut privilégier les dialogues afin de sauvegarder les bonnes relations entre les peuples du Congo-Brazza et du Congo-Kinshasa, selon le ministre de l'Intérieur. Nous allons voir comment la presse a analysé ces différentes informations à travers cette revue de presse que nous présente Kéline Couté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la rencontre Joseph Kabila et François Hollande à Paris. Axe RDC-France, Kabila-Hollande, des liens se resserrent. C'est la une de la prospérité. Les deux hommes d'État, d'après la consoeur, regardent désormais dans la même direction quant à la quête permanente de la paix ainsi qu'à la maîtrise de la situation sécuritaire et politique dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Kinshasa-Paris, le grand dégel, titre le phare, qui a rappelé la tension qui a régné entre les deux chefs de l'État la veille du sommet de la francophonie de Kinshasa en octobre 2012. Cependant, pour le journal, le seul message qui a particulièrement réchauffé les cœurs des Congolais, c'est celui du président français qui a appelé à l'intangibilité des frontières de la RDC. Le potentiel révèle pour sa part qu'à Paris, Hollande et Kabila insistent sur la nécessité de développer et de diversifier les échanges économiques entre la France et la RDC. Pour la tempête tropique, c'est la déception du grand public qui s'attendait à un flot d'informations. Au contraire, c'est un simple communiqué de la présidence de la République française qui est venu sanctionner la rencontre des deux personnalités. Mercredi au palais de l'Élysée, tête à tête François Hollande et Joseph Kabila, c'est la manchette du quotidien du groupe L'Avenir qui note que François Hollande a rappelé, comme il avait fait à Kinshasa en octobre 2012, son attachement à l'intangibilité des frontières de la RDC. Il s'est réjoui des progrès obtenus dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Ce sur quoi embraye Forum des As qui évoque les triomphes de Kabila à Paris. Changeons de chapitre pour parler de l'affaire des expulsions des Brazzaville. À ce sujet, Forum des As souligne que Brazzaville viole toutes les conventions en rapportant que le samedi dernier, le nombre d'expulsés congolais des Brazzaville a atteint le chiffre assommant de 120 000 personnes et indique que chacune des victimes a connu son martyre. Ni le passage du président du Sénat, Léon Kengouadondo, a fait effet. Brazzaville a instauré unilatéralement l'obligation de détenir un passeport avec un visa accordé par l'ambassade du Congo-Brazzaville pour toute traversée du pôle Malebo. L'Avenir rapporte au sujet de l'opération Bataille à Bakolo que les conséquences se font désormais sentir à Brazzaville. Pendant ce temps, le potentiel renseigne que le Congo impose le passeport. La RDC exige aux Brazzavillois le visa pour se rendre à Kinshasa. Parmi les autres sujets commentés cette semaine par la presse, on peut citer notamment la condamnation de Germain Katanga, ancien chef milice, à 12 ans de prison par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le début des travaux de la 7e réunion du comité de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba avec la présence de Mary Robinson et enfin le communiqué de l'Azado qui dénonce le manque de transparence dans la gestion des GoPass.
Merci que l'écoutez Félix Kabouzi. Je rappelle que vous êtes directeur des publications du journal La Référence Plus, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi, vous l'avez suivi dans cette revue de presse de Kéline Couté, c'est aussi cette condamnation à 12 ans de prison de Germain Katanga par la CPI. Et cet ancien chef milicien est reconnu coupable des crimes contre l'humanité et crimes de guerre lors du massacre dans le village de Bogoro en Ituri en 2003. votre commentaire?
Le commentaire, c'est de constater que la CPI vient de condamner un deuxième seigneur de guerre de l'Ituri. Le premier à avoir été condamné, c'est Thomas Lubanga, le leader de l'UPC. Et le deuxième, c'est Germain Katanga. Mais entre les deux, il y a eu un acquittement de Mathieu Ngoudjolo. Je pense que, s'agissant de Germain Katanga, cette condamnation à 12 ans me paraît quand même un mauvais signal, parce que vous savez que, comme on l'a dit, dans ce village de Bogoro, il y a eu des massacres autour de 200 personnes. Il y a eu, si vous voulez, des abus sexuels. Des femmes ont été prises comme esclaves sexuels. Il y a eu des pillages. Il y a eu des maisons incendiées. Et au total, il n'y a qu'une personne parmi les deux qui avait été, si vous voulez, amenée à la CPI autour de ce massacre-là. Il n'y a qu'une seule personne, donc Germain Katanga, qui écope de 12 ans. Alors que s'il s'était agi de la justice congolaise, je pense qu'il en aurait eu certainement beaucoup plus, certainement la peine de mort. Mais c'est chez nous, il n'y a pas une autre sanction à pareille situation. Ou si pas la peine de mort, si elle n'est pas exécutée, ça aurait été la perpétuité. Donc on constate que finalement la justice internationale est beaucoup plus clémente, et il faudrait peut-être qu'on rassure finalement les Congolais sur l'efficacité de cette justice, puisqu'après Germain Katanga, il y a Bosco Ntaganda qui en a commis autant à l'Ituri que dans le Nord et le Sud Kivu aussi. Donc il faudrait vraiment que la justice internationale soit en mesure de rassurer les gens sur sa capacité à réprimer réellement ces genres d'infractions.
Merci Marcel Mandokila, vous êtes directeur des rédactions au quotidien Forum des As, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'autre actualité, c'est le contrôle parlementaire mercredi dernier. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Bruno Kapanji a répondu aux questions des sénateurs en fournissant des explications sur le projet Inga 3. Et à l'Assemblée nationale, c'est le vice-premier ministre en charge du budget qui a répondu aux questions relatives au processus de bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État.
Oui, c'est une bonne chose. Le contrôle parlementaire permet à ceux qui gèrent le pays de savoir qu'ils ont des comptes à rendre et qu'ils ne gèrent pas leur propre case ou du gabelot, comme on dit généralement à Kinshasa. C'est un bel exercice, mais il faut pas que cela s'amplifie simplement lorsqu'on parle de l'avènement d'un nouveau gouvernement. Parce qu'on sait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de candidats. Et il y a même le chef de cette institution qui est cité parmi les futurs premiers ministres. Il ne faut pas que cet enjeu politique nous fasse éloigner du contrôle parlementaire qui est un exercice régulier au sein d'une institution. La bancarisation, on doit savoir où est-ce qu'on en est. À l'époque, il y avait quelques failles. Est-ce qu'on les a corrigées? Bon, le vice-premier ministre devait répondre aujourd'hui en principe pour donner les plus amples explications par rapport aux préoccupations des députés. Inga 3 aussi, on a toujours des problèmes sur le plan énergétique. Quand vous regardez le Bas-Congo, la province où est installé le barrage d'Inga, il y a encore des zones d'ombre. Quand vous revenez à Kinshasa, les coupures, etc., c'est fréquent. Et on avait même parlé une fois de la construction d'un barrage avec des Chinois, ça devait faire 3 ans. Où est-ce qu'on en est? Si nous résolvons les problèmes énergétiques chez nous, nous serons en mesure d'exporter les courants et d'avoir suffisamment de recettes.
Et c'est pourquoi d'ailleurs le projet Inga 3 a
justement,
été
on doit,
entrepris.
Oui, on doit quitter le cadre des projets pour arriver à un édifice, à une œuvre qui puisse convaincre les Congolais que les problèmes seront résolus.
Merci.
Donc j'encourage l'action des députés, il faut vraiment qu'il y ait de pression sur l'exécutif afin que tout le projet se réalise.
Merci Dona Moussema, directeur général de la radio communautaire Iriba FM, mettant depuis Bukavu Sud Kivu, et secrétaire provincial de l'UNPC Sud Kivu. L'actualité, c'est aussi le communiqué publié lundi dernier par l'ASADO et dans lesquels cette ONG dénonce le manque de transparence dans la gestion de la taxe GoPass perçue par la RVA.
Oui, je pense que cette taxe GoPass, c'est quelque chose qui fâche. De temps en temps, quand nous quittons les provinces pour arriver à Kinshasa, nous constatons qu'il y a beaucoup de tracasseries avec beaucoup de taxes. Et des fois, ça ternit l'image du pays. Donc, si on peut aujourd'hui revenir à cette question, qu'on la remette sur la table et qu'on sache exact ce montant là-bas de GoPass souvent qui varie entre 30$ et 40$, à quoi ça sert finalement. Donc je pense que bien, il faut avoir cette culture de redevabilité, de rendre compte, exiger la culture de la redevabilité. Je soutiens et j'encourage. Nous attendons qu'on nous en dise au fait plus et clairement à quoi sert cet argent, étant donné que il y a beaucoup de choses encore qui se passent dans nos aéroports. On voit qu'il y a beaucoup de tracasseries. Alors, c'est bien, j'encourage.
Oui, Dona Moussema, aujourd'hui, l'actualité, c'est quoi à Bukavu, Sud-Kivu?
La population est sous un choc, hein, avec notamment l'assassinat par balle avant-hier la nuit d'un changeur de monnaie qu'on appelle communément Kambi. C'était vers 20h, en plein centre-ville du Bukavu, au marché de Nyawera, dans la commune d'Ibanda. Le criminel a aisément opéré, tranquillement, sans être identifié ni découvert. Alors, il s'agit d'un assassinat qui vient encore remettre en cause l'épineuse question de la sécurité dans la ville de Bukavu. Aujourd'hui, certaines associations de la société civile, en collaboration avec certains candidats de la ville de Bukavu, ont voulu manifester et organiser une marche de colère ce matin pour protester, exiger plus de sécurité. Mais la marche n'a pas eu lieu, tout simplement, car elle n'a pas été autorisée par la mairie de Bukavu.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Joseph Kabila et François Hollande, d'accord sur la nécessité de développer et de diversifier les échanges économiques et humains entre la RDC et la France. Parmi les secteurs concernés, on cite les transports, les infrastructures et la gestion durable des ressources naturelles. C'est ce qui ressort de l'entretien que le président français a eu mercredi dernier à Paris avec son homologue de la RDC. Selon le communiqué de l'Elysée, les deux chefs d'État ont aussi abordé la situation dans les Grands Lacs, la crise centrafricaine et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les points avec Michel Kifitangoï.
Au cours de l'entretien avec Joseph Kabila, François Hollande a rappelé son attachement à l'intangibilité des frontières de la RDC. Il s'est également réjoui des progrès obtenus dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC. François Hollande et Joseph Kabila ont tous deux réaffirmé leur mobilisation pour la République centrafricaine où des contingents des deux pays sont déployés. Ils ont également marqué leur volonté que l'opération de maintien de la paix des Nations Unies, qui sera déployée à partir du 15 septembre, dispose d'un mandat solide et soit articulée autour de la mission africaine aujourd'hui présente. Au plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont réjouis des relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'éducation primaire, de la formation professionnelle, de l'accès à l'eau et de la gouvernance financière du pays. François Hollande a enfin rappelé l'attachement de la France à la protection des libertés politiques, à la lutte contre les violences sexuelles, à la stabilité des institutions et à la défense des droits humains en RDC conformément aux différentes résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Félix Kawuzi, directeur des publications du journal La Référence Plus, Joseph Kabila reçu au palais de l'Élysée par François Hollande.
Oui, c'est un grand réchauffement entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État. Dans le résumé que vous avez fait tout à l'heure de la revue de presse, vous l'avez souligné, il y a 2 ans, entre Hollande et Kabila, c'était vraiment le froid. On a même frôlé pratiquement le pire, puisque Hollande a hésité pratiquement jusqu'à la dernière semaine avant de se décider de venir prendre part aux travaux du sommet de la francophonie. Je pense que il est invité, le président Kabila, et déroulé, n'est-ce pas, le tapis rouge pour l'accueillir. Il est lui-même descendu d'ailleurs jusqu'au perron pour accueillir son hôte. C'est un bon signe, parce que le pays perdrait effectivement à avoir des relations tumultueuses avec la France. Mais je pense que sur le plan économique, il y a bien des choses qu'il faudrait faire, parce que la présence française dans notre pays est de plus en plus insignifiante aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez circuler dans le pays, il y a très peu d'entreprises françaises. Ce n'est pas le cas, par exemple, lorsque vous allez dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, ou même ici au Congo-Brazzaville, la France est pratiquement présente dans des secteurs importants comme le secteur minier, comme le secteur d'hydrocarbures. Ils sont dans les secteurs bancaires, ils sont un peu partout. Alors que chez nous, je crois qu'on peut à peine compter sur le bout de doigts, 4, 5, 6 entreprises, avec, je crois, Orange, qui est aujourd'hui le fleuron.
Et à l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État se sont accordés sur la nécessité de développer et de diversifier les échanges économiques et humains entre les deux pays, et ciblent notamment les transports. Et il est de notoriété publique que les besoins de transport ici au Congo sont énormes et qu'une série de mesures avaient été prises par le gouvernement pour essayer de réformer ce secteur. Et l'on peut affirmer aujourd'hui que si ces souhaits des deux chefs d'État s'est concrétisé, cela pourrait booster ces efforts qui sont fournis par le gouvernement dans ces secteurs-là.
Maintenant, il faudrait que les émissaires du gouvernement congolais soient un peu plus imaginatifs pour attirer, n'est-ce pas, les investisseurs français, puisque dans le secteur de transport, ils y sont déjà avec, je crois, la direction de Transco. Je crois qu'il était même prévu, à moins que les choses aient changé, en tout cas lors du lancement, on disait que il allait y avoir un partenariat entre Transco et la régie française de transport de la ville de Paris, la RATP. Sur le plan aussi de transport aérien, ça c'est un dossier qui est encore en étude, je crois, presque fin étude. Et il est prévu que Air France vienne encadrer la nouvelle compagnie d'aviation congolaise qu'on est en train d'envisager d'ici la fin de cette année. Mais on peut faire plus, notamment par exemple avec, disons, sur le plan des infrastructures portuaires, puisque
oui, nous avons Bolloré qui est en train de vouloir gérer le port des Matadi.
Voilà, justement, mais on n'a jamais compris pourquoi on n'a jamais fait progresser ce dossier-là. On peut aussi déplorer, par exemple, qu'en 2009, lorsque le président Sarkozy est arrivé ici, il est venu avec un groupe d'investisseurs français, et notamment le président délégué général de groupe Areva. Voilà. Il avait été à ce moment-là dit qu'on pouvait envisager l'exploitation de l'uranium congolais.
Qui n'est plus exploité depuis plusieurs années.
Voilà, justement. On ne comprend pas pourquoi, lorsqu'on veut lancer un projet, c'est juste une annonce et après, merci, plus rien n'évolue.
Merci. Marcelin Manokila, directeur de rédaction au quotidien Forum des As. Le domaine des transports est un vaste chantier dans lequel interviennent beaucoup de partenaires, notamment la Banque mondiale. Et à votre avis, comment la RDC pourrait capitaliser ces différents apports afin que les résultats escomptés soient atteints, parce qu'on dit qui trop embrasse, mal étreint.
On doit d'abord partir des relations que nous avons consolidées avec la France dans le domaine du transport. Et ça me rappelle à l'époque qu'il y avait la Sotras, une société de transport en commun avec des bus Renault, je crois.
Ça vient.
Oui. Ça marchait très bien. Ouais. Ça marchait très bien. C'était une très bonne expérience. Je crois qu'il est question de faire comme ce qui fut le cas à l'époque, ou plus avec Transco. Le défi du Premier ministre Matta, d'ailleurs, c'est d'enterrer le 207. Pour enterrer le 207, il faut envisager une politique à grande échelle, c'est-à-dire rien que dans la ville de Kinshasa, avoir suffisamment de bus, et les bus, certains doivent clôturer leur journée un peu plus tard, si les bus rentrent si Forcola vers 21h, après c'est la fête de 207, donc le problème n'est pas pour autant résolu, donc il faut multiplier des stratégies pour le faire, comme dans le secteur du transport aérien, comme Kabiz l'a évoqué, là aussi il faut vraiment que nous puissions faire en sorte que ce projet marche. C'est pas bon d'avoir dessiné des accords qui se terminent sans lendemain. Ce n'est pas bon pour la population. Donc il y a des efforts à fournir, tout comme aussi...
Comme il n'est pas non plus prudent d'accepter des accords pour les plaisirs de le faire.
Il faut justement éviter le piège. Il faut éviter de se laisser endormir. Après la douche froide qu'on avait connue avec la francophonie, c'est le dégel. Kabila qui arrive devant le palais de l'Élysée, Hollande qui est sur le perron, Kabila avance et il descend les marches. Quand un blanc fait ça, il a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il vise? Parce que les relations entre les États, c'est d'abord des intérêts. C'est pas un problème de cœur, non, Congo, Brazza, Kinshasa, Tuzambo, Kamongo. Non, c'est pas ça. C'est un problème d'intérêt d'abord. Des relations entre États. La France a plusieurs intérêts à viser ici. L'uranium, Kabuz l'a évoqué, mais est-ce qu'on peut exploiter l'uranium congolais sans l'accord des États-Unis? Ça ne passera pas. Et il semble qu'on a également évoqué le problème du bassin continental entre nous et l'Angola. Total tient à s'impliquer là-dedans, bon, moyennant quelle modalité, je ne sais pas. Donc la France a
Mais Perenco est déjà à Moanda.
Oui, Perenco est à Moanda, mais le bassin continental entre nous et l'Angola, constitué l'objet de la querelle entre nous et l'Angola. Total, d'après ce que j'ai appris, voudrait s'impliquer là-dedans. Donc, la France a vraiment besoin des RDC. Tout comme pour le dossier centrafricain. La France ne va plus envoyer des effectifs. La France voulait remplacer ça par des effectifs congolais. Parce que la France s'est battue au niveau de l'ONU pour obtenir l'envoi des troupes là-bas. Et la France voulait que ça réussisse. Donc, la France a besoin de nous. Nous devons être, on dit, à malin, malin demi. Nous devons savoir quelles sont nos priorités à nous. La France a besoin de nous. La France a des intérêts économiques, c'est nous. Mmh. Mais qu'est-ce que nous devons gagner en retour? Qu'est-ce qui nous manque là où nous devons soutenir l'appui de la France?
Et donc être beaucoup plus imaginatif, comme l'a dit Kabouzi.
Exactement. Sinon, nous serons les donneurs de la farce un jour.
Merci. Dona Moussema, directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu. La gestion durable des ressources naturelles est parmi les secteurs concernés. Et dans ces domaines, la RDC regorge des potentialités énormes et beaucoup de gens se demandent pourquoi les gaz de méthane dans le lac Kivu n'est toujours pas exploité, et quand on sait les dangers que la population riveraine encourt du fait de ne pas exploiter ces gaz, n'est-ce pas une occasion pour remettre sur la table ces dossiers?
Merci. Avant d'abord de placer un mot sur le gaz de méthane du lac Kivu, je voulais d'abord revenir au niveau peut-être diplomatique en disant que cette visite de Joseph Kabila à Paris, en France notamment, bon, je pense que ça constitue quand même une image positive de tout le pays et de Joseph Kabila lui-même, parce qu'il y a 2 ans, les relations n'étaient pas au bon fixe. Je pense que c'est une percée diplomatique pour Joseph Kabila. Et j'ai salué globalement donc la signature d'un tel accord qui a beaucoup de projets intégrateurs, mais pour revenir justement à cette question du gaz méthane, je ne sais pas. On ne peut pas exploiter le gaz de méthane aujourd'hui parce que peut-être le gouvernement n'a pas de vision claire par rapport à cette question. Il faut plus avoir une vision, il faut plus avoir un plan. Parce que le gouvernement doit travailler avec un plan, une planification, une vision claire. Donc, si jamais il arrivait qu'on puisse exploiter ce gaz méthane, ça peut être une bonne chose, mais ça dépend de la volonté politique du gouvernement, ça dépend de la vision. Or, pour les cas d'espèce, dans beaucoup de projets, on a toujours fustigé le fait qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de suivi des projets et tout et tout. Donc, on a signé des accords, c'est bien, mais nous voulons que ces accords puissent avoir des retombées positives sur les vies des populations congolaises.
Félix Kabouzi, les potentialités sont énormes au Congo ici, mais elles ne sont pas souvent transformées en richesse. Et nous avons parlé du gaz méthane, il y a aussi le pétrole que l'on trouve presque partout en RDC, mais qui n'est presque pas exploité.
Le vrai problème chez nous, c'est celui du climat des affaires aussi. Pourquoi, au moment où le gouvernement se déploie pour faire venir les investisseurs, il y a d'autres qui ferment même carrément. On a déploré il y a quelques mois ici un groupe comme Orgaman, plus d'une cinquantaine d'années de présence dans le pays, et qui a fini par fermer. Mais je pense que pour le cas du pétrole, c'est effectivement malheureux parce que le dossier du pétrole dans notre pays remonte de presque une dizaine d'années. Je pense que ici vous faites allusion au pétrole du lac Graben, de l'Ituri, sur les 3 ou 4 blocs qu'on a pu identifier là-bas. Mais savez-vous que nous en sommes aujourd'hui au 4e opérateur économique sur les mêmes blocs. Donc le tout premier qui a été là a été débarqué au profit du 2e, du 3e, et nous en sommes au 4e. Et pendant 10 ans, alors que de l'autre côté du lac, notamment en Ouganda, ils en sont presque à commencer les travaux d'exploitation. Chez nous, nous ne sommes que dans des discussions oiseuses, et encore au niveau de la prospection. Donc ça n'avance pas.
Il y a aussi du pétrole dans la cuvette
centrale, oui, notamment au parc. Et vous savez toute la difficulté qu'il y a à concilier les vues des populations locales, riveraines, avec l'intention du gouvernement, en tout cas d'autoriser l'exploitation du pétrole au parc. Donc il va falloir que, comme notre ami l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une vision et que cette vision-là soit partagée par l'ensemble de la classe politique. Ça veut dire le gouvernement, le Parlement, le Sénat, mais aussi la population, la société civile. Puisque à quoi ça sert d'avoir assez de carburant dans le sous-sol et qu'on ne sait pas les exploiter pendant 10 ans. C'est pas quand même possible. Ce sont des choses qui peuvent se boucler en 2-3 ans et on voit quelle peut être la rentabilité, n'est-ce pas, de toutes ces questions-là. Jusqu'aujourd'hui, on ne fait que tergiverser, on ne fait que tergiverser. En tout cas, soit on traite avec des opérateurs qui ne sont pas fiables et une fois ces gens-là analysent le dossier, ils découvrent qu'il y a des potentialités, eux-mêmes n'ayant pas l'assise financière ou technique, ils partent revendre, n'est-ce pas, les projets à d'autres, et voilà pourquoi les choses traînent généralement chez nous. Donc, il y a lieu de clarifier, d'assainir le climat des affaires chez nous.
Marcelin Mandakila, Félix Abouzi l'a relevé, il y a des pesanteurs, hein. C'est vrai que c'est bon de signer, de bénéficier de ces partenariats avec les partenaires extérieurs, mais il y a des pesanteurs, hein. Il a évoqué notamment les climats des affaires, et vous avez évoqué aussi la mainmise des États-Unis sur l'uranium congolais.
Moi, je crois que nous avons deux types de problèmes essentiellement en RDC. La volonté politique et la bonne organisation. La bonne organisation découle de la volonté politique. Vous savez, ce n'est pas bon quand on veut lancer des projets d'exploitation. Parlons de l'Ituri avec le pétrole. Ce n'est pas bon qu'on sente que certains officiels seraient dans le barrage. Ce n'est pas bon comme image. Il faut laisser plutôt les partenaires qui ont des moyens, qui ont une bonne vision pour les exploiter. Peut-être accompagner de quelques Congolais qui sont dans le secteur, faire avancer ce genre de projet. Mais lorsque les officiels tournent autour, ça pose toujours problème. Et ça pourrait même revenir sur les fameux problèmes des commissions, etc., etc., qu'on a toujours déploré et qui ont toujours été à la base de l'arrêt de certains projets qui pouvaient être générateurs d'importantes recettes pour le pays. Pour l'uranium, les États-Unis ont une loi à travers le monde qui leur permet d'agir pour préserver la paix là où l'uranium pourrait représenter un danger. Les États-Unis à travers le monde ont un droit de regard sur l'exploitation de l'uranium. Donc si la France veut faire ça avec la RDC, sans l'accord des États-Unis, ça ne marchera pas.
Donald Moussema, les enjeux sont énormes et au-delà de tous ses partenaires, la préoccupation majeure, c'est comment la RDC pourrait se comporter, n'est-ce pas, afin de tirer profit de tous ces échanges. Rappelez-vous que nous avons atteint un taux de croissance de plus de 8%, mais cela n'impacte pas encore sur le social des Congolais.
La RDC doit être sérieuse, comme je l'ai dit tantôt. Je pense que la RDC doit avoir une politique agissante, une politique qui implique une volonté politique. Donc, il faut qu'il y ait des contrats sérieux, donc pas des contrats parallèles, parce que de temps en temps, on déplore des contrats parallèles, la fraude, l'égoïsme dans la classe politique congolaise. Il faut aussi, je pense, résoudre la question de la sécurité parce que, bon, il y a encore la question de la porosité des frontières, par exemple. Et tout ça, je pense que ce sont des éléments qui entrent en ligne de compte pour que le climat des affaires puisse être florissant dans le pays. Donc, les gros du travail, comme je le dis toujours quand j'interviens dans cette émission, c'est au niveau de la volonté de la classe politique, avec une vision claire, avec la politique de la proactivité. Ce sont autant d'éléments qui peuvent aujourd'hui nous permettre de sortir du bourbier.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, la décision d'exiger aux ressortissants de la RDC de se munir de leur passeport pour aller au Congo-Brazzaville, en plus du laisser-passer, surprend les autorités du Congo-Kinshasa, selon le ministre de l'Intérieur. Richard Mouyej l'a dit mercredi dernier à la conférence hebdomadaire de l'ONU à partir de Goma. Pour lui, il est important de privilégier le dialogue entre les deux pays afin de sauvegarder les bonnes relations entre les peuples du Congo-Brazza et du Congo-Kinshasa. Il ajoute que la mesure des autorités brazzavilloise est contraire à un accord signé entre l'Angola, la RDC et la République du Congo. On l'écoute dans ses propos recueillis par Askin Zigbia Tayoro.
Nous avons été tous surpris par ce nouveau développement de ce qu'il convient désormais d'appeler une crise. Le dernier développement est justement celui où on a vu nos compatriotes refoulés parce qu'ils n'avaient que les laisser passer, ce qui jusque-là était admis. On a exigé les passeports et les visas, mais tout de suite j'ai donné l'instruction à la DGM de faire autant. C'est ce que nous faisons aussi. Mais c'est une politique que nous n'aimons pas beaucoup. Ce que nous voulons est que nous puissions nous rencontrer parce que tout ce qui se passe est contraire aux accords que nous avions convenus lors de la tripartite Angola, RDC, RC. Nous souhaiterions que les contacts se prennent très vite pour éviter de fragiliser les relations qui sont déjà assez bonnes. Au niveau de l'espace frontalier, ce sont les mêmes peuples, ce sont pratiquement les mêmes cultures. En ce qui concerne la partie qui est la nôtre, nous continuerons à faire cet effort pour réaliser le rapprochement. Le gouvernement n'est pas faible. Nous aurons l'occasion de faire un point de presse pour expliquer notre position actuelle.
Marcel Mandokila, je rappelle que vous êtes directeur des rédactions au quotidien Forum des As. Les autorités de la RDC sont surprises par la décision d'exiger aux Congolais de la RDC de se munir de leur passeport pour aller au Congo Brazzaville.
Vous savez, ça donne l'image d'un mariage éphémère. C'est-à-dire, l'homme et la femme sont à la maison. La femme veut vraiment résilier ce contrat et rentrer chez elle. L'homme continue à pleurnicher, mais la femme pose des actes qui permettent à l'homme de comprendre qu'il ne veut plus de ce mariage, et l'homme continue à ramper. C'est ça le problème. Mouillet, j'étais le premier à dire pas de réciprocité. Lui-même s'étonne avec le dernier développement pour dire non, c'est vraiment une crise. Mais pourquoi continuer à pleurnicher? Pourquoi continuer à se lamenter? Pourquoi continuer à quémander ce qu'on vous refuse officiellement?
Donc on refuse de décerner le contenu du message.
Le lien historique entre les deux peuples. À Brazza, on n'ignore pas ça. Nous avons des Banyanga dans le Bas-Congo, et l'équivalent au Congo-Brazzaville, c'est le Balari. Nous avons les gens de l'équateur de Bangala, vous avez les Mossi, je crois, au niveau du Congo-Brazzaville. Ils connaissent tout ça. Non seulement ils ont expulsé plus de 100 000, imaginez-vous. Et dans quelles conditions? Traitement inhumain, viol, etc. Tout ce qu'on a dénoncé. En plus, ils disent désormais c'est le visa. Et nous continuons à dire non, nous allons le dialogue en dialogue. Mais il faut un signal fort chez nous. Les Congolais, ils disent le gouvernement n'est pas faible. Mais avec ce qui se passe, le gouvernement est faible. Il n'y a qu'un signal fort de notre côté. Pour dire, messieurs, nous aussi, nous avons des droits à défense. Vous les avez violés, il y a des morts, vous avez violé, etc., etc. Bon, fermons la frontière, ou voilà telle décision.
Merci. Félix Kavouzi, je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal La Référence Plus. Les autorités de la RDC se disent surprises alors qu'on voyait cela venir, comme l'a dit Marcelin Mandokila. On voyait cette escalade-là venir avec l'intransigeance de Brazzaville qui a maintenu sa position en dépit de plusieurs rencontres entre les autorités des deux pays. Et finalement, la RDC n'a-t-elle pas été naïve vis-à-vis de Brazzaville par rapport à cette crise?
Je partage parfaitement l'opinion de Marcelin, dans ce sens que je pense que chez nous ne réalisons pas que Brazzaville veut effectivement qu'on puisse revoir, n'est-ce pas, le modus vivendi entre les deux États. Je crois que Brazzaville a probablement perçu les difficultés qu'il pouvait finalement avoir à recevoir nombre de Congolais de manière totalement désordonnée, qui sont pour la plupart, comme on l'a déjà dit, des émigrés sociaux. Ce ne sont pas des gens qui partent s'installer normalement et contribuer vraiment, si vous voulez, à quelque chose.
Pas tous.
En tout cas, un grand nombre, parce que si vous arrivez au beach, vous vous rendrez compte que à plus de 80%, ceux qui sont expulsés, ce sont des jeunes gens.
Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut utiliser ce genre d'approche pour expulser les gens.
Non, là où je condamne, ce sont les brutalités qui ont été utilisées. Et pour ça, j'ai aimé la proposition, n'est-ce pas, de la société civile, c'est que Brazza a violé des accords qui veulent que lorsqu'on doit expulser un refoulé, il doit être traité dignement. Mais pour les avoir brutalisés, le Congo n'a pas une autre solution que de s'adresser à la justice. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose à faire. Pour le reste, nous devons voir quelle est notre responsabilité.
Nous rappelons que récemment, l'Assemblée nationale a fait une telle recommandation au gouvernement congolais pour pousser le gouvernement congolais, n'est-ce pas, à saisir les instances internationales.
Oui, je crois que ça, il le faut absolument. De deux, pour des gens qui se sont fait prendre leurs effets. J'ai suivi récemment une information à Brazzaville où on leur demande, en tout cas le maire de Brazzaville a demandé à ceux qui peuvent avoir des preuves qu'on leur a volé leurs effets de porter plainte et qu'ils allaient voir éventuellement comment réparer. Mais au-delà, je voudrais dire la responsabilité de notre gouvernement. Le même ministre nous a révélé il y a deux ou trois semaines que Brazzaville compte à peu près 400 000 Congolais de la RDC. Alors que nous ici, nous n'en avons que 30 000. Vous voyez la marge. Que sont allés faire les 400 000 Congolais au Congo-Brazzaville? Que sont-ils allés faire là-bas?
Déjà, 121 000 ont été expulsés.
Voilà. Non, hier, j'apprenais par une autre source qu'on serait déjà à 160 000. Donc, vous vous rendez compte que c'est complètement fou. Vous avez autant de gens qui partent à Brazzaville, pour la plupart pour des petits métiers, pour la plupart pour du travail informel, certaines carrément pour la prostitution souterraine. Ce sont des choses franchement qui ternissent l'image du pays. Plutôt que de se mettre tous les jours à évoquer les liens de consanguinité, la culture, je crois qu'on devrait voir quelle est notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé aux autorités de Brazzaville. Puisque avant d'abord cette mesure, et vous l'avez d'ailleurs dit, comme signaux, des Brazzavillois ont commencé à demander à ce que des jeunes filles congolaises ne se rendent pas à Brazzaville. Il y a deux ou trois mois avant, en tout cas, l'expulsion. Des mesures avaient été prises pour que des jeunes filles d'âge de moins de 30 ans ne traversent pas l'autre côté de l'île. Donc, c'est pour dire que, franchement, les autorités congolaises doivent faire en sorte que, lorsque des gens doivent aller s'installer ailleurs, que ce soit des dignes représentants du pays, que ce soit des gens qui partent avec une expertise, apporter une expertise à Brazzaville, aller investir à Brazzaville, aller développer, et pas des gens qui partent finalement pour ternir l'image du pays.
Merci Dona Moussema. Je rappelle que vous êtes directeur général de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu, Sud Kivu. Selon le ministre de l'Intérieur, tout ce qui s'est fait à Brazzaville est contraire aux accords qui existent entre l'Angola, la République du Congo et la RDC. Et étant donné que Brazzaville viole cet accord qu'évoque le ministre Mouyej, que peut faire la RDC, donc Kinshasa, pour pousser justement la République du Congo à pouvoir se conformer à cet accord?
Je suis très désolé de voir que plus le jour passe, plus le dossier va de mal en pis. On pensait qu'aujourd'hui, étant donné qu'on parlait encore de la question le vendredi, on pensait qu'aujourd'hui on aurait déjà des avancées significatives, mais c'est plutôt le contraire. Je pense que quand on est autorité, quand on est chef ou leader, on ne se plaint jamais. On doit éviter la surprise et à tout prix, on doit trouver une solution au problème de ces sujets, de ces administrés. La proactivité dont j'avais parlé la fois passée, voilà encore où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. On ne doit pas être surpris quand on est autorité. Je pense que nous devons être conséquents, devons être visionnaires. Les États faibles sont appelés à disparaître, comme le veut la politique internationale. Les institutions fortes, oui, comme le disait Barack Obama. Quand le ministre de l'Intérieur prône pour le dialogue, je suis tout à fait d'accord. La RDC peut dialoguer, mais aussi en dialoguant, on ne peut pas dialoguer tout en étant faible. Les dialogues aussi supposent des préalables. Il faut avoir un agenda clair, par exemple, parce que c'est entre États. Il faut voir ce que nous amenons dans les dossiers. Quelles sont les propositions que nous allons amener. Voilà. Donc, je pense que stade actuel, étant donné que les autres pays, l'Angola notamment, et les Congo-Brazzaville ont violé les accords, la RDC ne peut que constater cela et peut-être se soumettre aux juridictions internationales. Mais en attendant, il y a un travail en amont et en aval au niveau interne que les autorités congolaises sont appelées d'abord à faire, notamment la proactivité, voir comment accueillir tous ces réfugiés congolais qui rentrent dans le pays et tout ça. Donc, je pense à cela comme solution.
Marcelo Madokila, une certaine opinion estime que cette question devrait figurer, n'est-ce pas, dans les entretiens entre le président Kabila et le président Hollande.
Je ne pense pas qu'ils aient oublié d'évoquer cela. Le Congo-Brazzaville avait été colonisé par la France, qui garde encore une mainmise là-bas, avec beaucoup d'intérêts économiques, etc. Ça ne m'étonnerait pas, même si on n'en parle pas officiellement, que les deux chefs d'État, François Hollande et Joseph Kabila, aient évoqué cela. Bon, on doit cesser vraiment à comprendre pourquoi ils l'ont fait, et en ce moment précis. L'élection présidentielle, c'est pas dans deux mois. D'autres élections, c'est pas dans quatre mois, dans trois mois. Mais pourquoi seulement en ce moment?
C'est là que
au-delà de Sassou, qu'est-ce qu'il y a?
Voilà. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi personne n'arrive à analyser l'escalade qu'atteint ces phénomènes-là.
Oui, c'est à peine que les autorités ici, on a également entendu ça au Parlement, parlent de l'aspect sécuritaire en craignant des infiltrations. qu'est-ce qui se trame en réalité autour de cette question? L'Angola bientôt va faire le recensement.
L'Angola a aussi procédé aux expulsions. Il y a des Congolais qui ont été expulsés la semaine passée.
Ce n'est pas fini. Quand on parle de recensement, ça veut dire prenez vos dispositions. Ceux qui n'ont pas de papier qui rentrent déjà en RDC, les autres, je ne sais pas. Donc, au-delà de ce qu'on dit officiellement, qu'est-ce qui se trame? C'est ça ma question.
Voilà, Félix Kabouzi, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce qui s'est dit officiellement, comme on le dit Mandwakila, qu'est-ce qui peut être l'élément, n'est-ce pas, qui pousse les autorités congolaises à pouvoir afficher un tel comportement?
Bon, on peut envisager différentes hypothèses. Mais moi, je voudrais plutôt analyser les choses sur le plan des faits. Les faits, c'est que Kinshasa semble devenir un fardeau pour Brazzaville. En tout cas, en termes de refoulés sociaux, plutôt en termes d'émigrés sociaux, je voudrais ainsi dire, parce que les Congolais sont finalement partis et ils sont nombreux à travers le monde. Vous arrivez en Afrique du Sud, c'est le même phénomène. Vous arrivez à l'est du pays, en Ouganda, au Rwanda, même au Kenya, vous arrivez en Europe, un peu partout, les Congolais, on dirait qu'ils se sont vraiment décidés de partir. Et il faut que quelque chose soit fait au niveau du gouvernement pour qu'on leur propose quand même des solutions de réchange à l'intérieur du pays. Pourquoi laissons-nous partir des jeunes gens qui peuvent demain servir, n'est-ce pas, de main-d'œuvre importante pour la reconstruction du pays? Vous voyez par exemple ce qui est arrivé avec Brazzaville. Il y a 150, 160 000 qu'on a expulsés. Mais qu'est-ce qu'on leur a proposé? Juste d'aller passer, n'est-ce pas, à la Belle Étoile, hein, une place au stade du 24 novembre. Et puis, maintenant, on les a renvoyés un peu plus loin, vers Maluku. Mais il n'y a pas de solution.
Comme pour s'en débarrasser.
Voilà, absolument. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'on leur propose? À Brazzaville, ils avaient quand même des petits métiers qui leur permettaient, tant bien que mal, de tenir leur famille. Merci. Donc je crois qu'il y a un vrai problème au niveau du gouvernement. Il ne faudrait pas qu'on laisse vraiment des Congolais à la merci et qu'ils aient comme seule solution de partir.
Merci. Dona Moussema, au-delà de tout cela, quelle est la leçon à tirer?
La leçon à tirer, c'est-à-dire il faut travailler pour le Congolais, il faut avoir une politique agissante, une politique de proactivité. Il faut améliorer sensiblement les conditions socio-économiques du Congolais. Et de cela, il ne va plus commencer à errer par-ci par-là à l'étranger comme si c'était un orphelin. Je pense qu'on peut y arriver avec une bonne volonté politique. C'est ce qui nous manque dans le pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Claude Tiala était à la technique et Kevin Kouté à la réalisation sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Devant ces micros, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi.